Radio Classique, les spécialistes.
Vous connaissez la situation, il y a eu 27 000 nouveaux cas en 24 heures en France et on se demande s'il y aura un reconfinement. Regain d'intensité dans toute l'Europe et par exemple, mon cher Emmanuel Faux, si nous prenons le cas de l'Allemagne, la disproportion avec la France est quand même absolument phénoménale puisqu'en Allemagne, il n'y a que 4 000 nouveaux cas et on est pourtant dans une situation de couvre-feu voulu.
Exactement. Bonjour Guillaume.
Bonjour,
L'Allemagne, c'est pourtant pas la lanterne rouge de l'Europe. Hein. Vous le disiez, le pays enregistre en moyenne 4000 nouveaux cas quotidiens contre, par exemple, plus de 8000 en République tchèque, qui compte seulement 11 millions d'habitants. Mais malgré ça, effectivement, plusieurs villes allemandes ont décidé de prendre le taureau par les cornes et d'instaurer une sorte de couvre-feu. Alors, c'est le cas à Cologne et à Francfort, pour prendre deux grandes villes, où les bars et les restaurants doivent fermer leurs portes dès 22h et où la vente d'alcool devient maintenant interdite jusqu'à 6h du matin. À Berlin, où la vie nocturne, on le sait, est généralement très animée, les bars peuvent rester ouverts toute la nuit habituellement, eh bien l'interdiction et la fermeture des établissements commencent à 23h. C'est du jamais vu dans la capitale allemande depuis 1949. Globalement, la consigne est claire. Face à une situation épidémique inquiétante, ce n'est pas le moment de faire la fête et le message s'adresse notamment aux moins de 40 ans. Ces mesures font hurler les restaurateurs, évidemment, mais le gouvernement d'Angela Merkel les assume. La semaine dernière, d'ailleurs, la chancelière a même brandi l'exemple français en guise d'épouvantail, en expliquant que si les choses continuent de s'aggraver, eh bien l'Allemagne risque de suivre le même chemin que la France, qui a donc franchi ce week-end le cap des 20 000 cas par jour. Oubliez le couple franco-allemand en matière sanitaire. Et Madame Merkel en a remis une couche samedi. Elle a prévenu que si la propagation du Covid-19 ne se stabilisait pas dans les 10 jours qui viennent, d'autres mesures plus drastiques pourraient être prises et on parle même de possibles reconfinements locaux.
Globalement, on assiste, mon cher Emmanuel, à un nouveau resserrage vis-à-vis de tous les pays d'Europe. Hein.
Ben oui, parce que les courbes sont alarmantes et que dans plusieurs pays, on ne veut pas revivre la situation d'urgence sanitaire et de tension hospitalière du printemps dernier. Alors certes, à part en Israël pour des raisons liées aux fêtes religieuses et dans une grande partie de Madrid, vous venez d'en parler dans le journal, nulle part pour l'instant la population n'a été reconfinée. Que ce soit en Écosse, en Belgique ou à Lisbonne, les gouvernements choisissent plutôt des mesures de couvre-feu avec fermeture des bars et parfois des restaurants, qui vont avoir évidemment des répercussions très fortes sur l'activité économique. Mais on sent que les autorités sont sur le qui-vive et que la chute progressive du mercure en Europe et la perspective de l'hiver qui va arriver sont des motifs d'inquiétude quant à la circulation du virus. Les Européens qui tentent d'harmoniser en tout cas leurs critères de gravité de la pandémie, les mêmes couleurs devraient être adoptées par les 27 pour distinguer les régions plus ou moins touchées. En revanche, pas encore d'harmonisation sur la durée de la quarantaine qui varie d'un pays à l'autre.
Voilà, nous serons en direct avec Axel Kahn, le généticien à 8h15, qui sera l'invité politique de la matinale, car il y a deux choses qui évidemment inquiètent en France. D'abord, nous sommes le pays, semble-t-il, en Europe le plus touché. Deuxièmement, on s'interroge évidemment sur une possible ou impossible reconfinement, puisque le président de la République doit s'exprimer donc dans les jours qui viennent. Pourquoi la France est-elle plus particulièrement touchée? Nous verrons ça tout à l'heure en direct. Nous avons rendez-vous dans un instant après cette petite virgule avec Dimitri Pavlenko.
Guillaume Durand sur Radio Classique.
Dimitri, le skieur de la matinale, il est enfermé dans son chalet. Ça va, mon cher Dimitri?
Ça va très bien.
Vous êtes magnifique. Nous allons parler de sport dans un instant avec vous et avec, bien évidemment, le journal imprévisible de Renaud Blanc après la victoire incroyable de Rafael Nadal, qui a littéralement explosé Djokovic, qui est quand même numéro un mondial. Mais c'est aussi l'intérêt pour nous sur Radio Classique de nous appesantir sur une donnée qui est très importante dans un monde qui est dominé par Nike, Adidas, etc. C'est les sportifs et leurs revenus qui sont faramineux.
Oui, alors bon, moi je vais parler des plus riches, hein. C'est le plus intéressant, Guillaume, parce que après, effectivement, sport par sport, ce serait intéressant, mais dans le top 20 mondial, c'est intéressant de voir qui compose ce top 20 mondial. Alors, première leçon, d'abord, bon, si vous voulez être milliardaire un jour, c'est pas par le sport que je vous conseille de commencer, parce que en réalité, nous n'avons que 2 milliardaires dans le top 20, donc c'est les deux têtes. Le premier, le plus riche de tous, hein, et sans grande surprise, c'est Michael Jordan, fortune estimée 2,2 milliards, parce que c'est ça a été un sportif incroyable, de nombreux titres avec les Chicago Bulls, mais aussi un homme d'affaires hors pair, ça il faut le dire. Le deuxième, alors vous allez me dire si vous le connaissez, Guillaume, parce que moi, faut que j'avoue que je ne le connaissais pas, Yon Tyriac, ça vous dit quelque chose?
Yon Tyriac, bien sûr, il a joué en double avec Ilina Stas, c'est un Roumain, et tout il possède toutes les concessions automobiles en Roumanie.
Vous êtes un collab, c'est ça. Plus grosse fortune de Roumanie, directeur du Masters de Madrid, il a coaché Boris Becker, Guillermo Vilas aussi, mais ça n'a pas été un très très grand tennisman, mais un homme d'affaires très avisé, fortune, 1 milliard d'euros. Alors derrière, le troisième, vous allez voir, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas que le foot, on aurait pu s'imaginer que c'était ultra dominant, et pas tant que ça. Troisième, c'est un golfeur, Tiger Woods, 800 millions de dollars de fortune estimée. Derrière, coude à coude, Michael Schumacher, qui n'est plus en activité depuis 2013, depuis son accident, mais fortune de 600 millions de dollars tout de même, et Magic Johnson, l'ancien basketteur, ils sont au coude à coude. On trouve pas loin aussi Floyd Mayweather, le boxeur, aussi homme d'affaires très avisé avec ses combats à très très grands spectacles en pay-per-view. Et puis ensuite dans le top 20, alors évidemment les footballeurs, on l'a dit, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, tous ces gens sont à des fortunes autour de 500 millions de dollars, Roger Federer pour le tennis, et beaucoup de golfeurs aussi. Alors les golfeurs, ils sont nombreux, Jack Nicklaus, Phil Mickelson, Greg Norman, ces gens-là sont dans le top 20 mondial. Voilà, et donc c'est très varié. Vous avez aussi un joueur de NFL, le football américain que l'on connaît peu par chez nous, mais qui marche très très bien là-bas, qui permet de bâtir de belles fortunes. Un joueur de baseball également. Donc voilà de quoi est fait aujourd'hui le top 20 mondial. Je vous le rappelle, dominé quand même très très loin par l'immense, l'incontournable Michael Jordan.
Voilà, Netflix a consacré une série entière donc à Michael Jordan, avec un petit passage où on le voit dans une émission où je jouais un petit rôle.
C'est vrai.
Nulle part ailleurs. Absolument. L'énorme Michael Jordan, qui n'était pas si grand que ça, puisqu'il faisait moins de 2 mètres, mais alors une puissance absolument phénoménale et un talent peut-être supérieur à celui de LeBron James, nous verrons ça.
Oui, j'ai oublié de vous le donner, d'ailleurs Guillaume, il est dans le top 20, effectivement, fortune de 480 millions de dollars.
Il faut bien expliquer et redire, d'ailleurs vous le répétez souvent le matin, qu'en plus toutes ces personnalités poussent une industrie phénoménale, qui est l'industrie du textile et du sport. 7h47.